Bonjour à tous, merci Pierre pour cette introduction. Je vous invite à la prière avant de lire en 1 Corinthiens au chapitre 12 et nous lirons les versets 12 à 30. Inclinons-nous dans la prière. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu nous donnes la vie, parce que tu nous as donné ta parole, Seigneur, celle qui nous enseigne, celle qui nous corrige, celle qui nous instruit, celle qui nous exhorte. Seigneur, veuille encore ce matin nous parler afin que nous soyons non seulement des auditeurs attentifs, mais des pratiquants de ta parole. Par Jésus le Seigneur. Amen. Nous poursuivons notre étude du livre La Lettre aux Corinthiens. Et comme je l'ai indiqué, nous sommes en 1 Corinthiens au chapitre 12 et nous lisons donc à partir du verset 12 jusqu'au verset 30. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied, « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes, les moins décents, sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Lorsque vous entamez la lecture d'un article, d'un livre, ou quelque lecture que ce soit, il y a des mots qui attirent votre attention. Ils attirent votre attention par leur fréquence dans le texte que vous êtes en train de lire. Et lorsque nous lisons cet extrait, en tout cas, lorsque je l'ai lu, j'ai été assez interpellé par le refrain du mot « corps ». Le corps, et j'en ai compté 17 fois dans à peine une vingtaine de versets. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est le corps? Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Le corps, c'est la partie matérielle d'un être animé. Et le corps, ici, désigne l'Église. L'Église, c'est le moyen, c'est l'intermédiaire entre sa partie vivante et le reste du monde. Autrement dit, le corps, l'Église, elle est l'objet qui porte la vie. Et cette vie lui est insufflée par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul écrit au sujet des dons que l'Esprit donne au corps, au verset 11, « Toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant en particulier comme il le veut. » Ce corps, qui est donc une matière, comporte plusieurs organes. Et comme tout organe a besoin d'oxygène, de sang, pour vivre, de même, tout ce qui est matériel ne doit sa vie qu'à quelque chose qui est externe à lui, extérieur à lui, et qui est autonome. Et c'est le cas ici avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie au corps. Et dans ce passage, l'apôtre Paul insiste pour rappeler aux Corinthiens la dimension plurielle du corps et son caractère indivisible. Le corps comporte plusieurs organes et il est cohérent dans son fonctionnement naturel. Chaque organe joue sa partition. Si on veut prendre une image musicale, c'est comme un orchestre. Dans un orchestre, il y a plusieurs instruments. Chacun joue sa partition, mais ce qu'on entend est tellement harmonieux, tellement agréable, qu'on est attentif. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme cela que l'Église doit fonctionner, ou devrait fonctionner. Paul montre donc ces premières différences qui émergent du corps. Et il parle des Juifs, il parle des Grecs, il parle des esclaves, il parle des gens libres. La société dans laquelle l'apôtre Paul évolue est une société qui est ainsi composée. Mais elle est appelée, dans cette composition, à appartenir à Christ. Qui sont ces personnes auxquelles l'apôtre Paul reconnaît le droit d'appartenir au corps de Christ? Les Juifs? Les Juifs sont les descendants biologiques d'Abraham, Isaac et Jacob. Et vous vous souviendrez que dans un échange musclé avec Jésus, Jésus répondait à certains Juifs en disant « Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins, les désirs de votre père. » Jean 8, verset 44. Les Juifs se sentent légitimes de parler de Dieu, le Créateur, et ils revendiquent ce droit. Et qui peut le leur contester? La Bible montre le peuple juif comme dépositaire des alliances avec Dieu. Et on a l'alliance avec Abraham, Genèse 12. On a l'alliance avec Noé, Genèse 9. On a l'alliance avec Israël, au Sinaï. Et donc, les Juifs parlent de choses qu'ils connaissent. Ils ont des arguments solides sur lesquels ils s'appuient. Et puis l'apôtre Paul parle des Grecs. Les Grecs, c'est un ensemble de peuples païens qui vont être touchés par la grâce. L'apôtre Paul et d'autres sont de ceux-là qui, pionniers, vont apporter cette bonne nouvelle dans ce peuple. Et dans cette société, il y a des esclaves. Et comme le mot le mentionne, les esclaves sont des personnes qui dépendent d'un maître et dont le maître décide de la vie ou de la mort. Et puis il y a des hommes libres, ceux qui sont devenus libres en ayant été esclaves, ou ceux qui sont nés libres parce que d'ascendance libre, parce que statut social ayant changé, ils acquièrent la liberté. Toutes ces personnes, aussi différentes qu'elles soient, ont un besoin commun. Elles ont un point de rencontre, un point d'intercession vers lequel elles doivent aller, parce qu'elles ont été créées dans un objectif précis. Et ce point commun de rencontre, c'est l'Esprit Saint. Ces personnes sont appelées à former un corps, et pour constituer ce corps, elles ont besoin de l'essence. Cette essence, c'est l'Esprit Saint. Dans la forêt ou dans les savanes, ou peut-être même dans des parcs, quand vous regardez les documentaires animaliers, souvent on montre, en pleine sécheresse, un point d'eau. Et à ce point d'eau, tous les animaux convergent. Pourquoi ? Parce que ce point d'eau est l'objet de leur survie. Dans la sécheresse, quand il fait extrêmement chaud, on a besoin d'être hydraté. Et tous les animaux vont à ce point d'eau. Certains, malheureusement, y trouvent la mort. Mais ils y vont parce qu'ils savent que c'est là où ils trouveront, ils pourront prolonger leur vie. L'Église que Paul décrit de son temps ressemble à l'Église qui est la nôtre. Des personnes différentes. Différentes par leur origine, différentes par la couleur de leur peau, différentes par leur vie sociale, différentes par leur culture, différentes par leur enseignement, leur éducation. De grandes différences. Et pourtant, le Seigneur leur assigne un but à tous, former un seul corps. Car, nous dit l'apôtre Paul, nous avons tous bu à un seul esprit. Est-ce que c'est donc ce vécu-là qui est le nôtre ? Parfois, il faut se pincer pour se dire « je suis dans l'Église ». L'un estime que son point de vue est prêt, doit être prépondérant parce que il appartient au groupe auquel ont été données les alliances. L'autre exige que telle attitude soit adoptée parce que lui, il est autochtone, il est grec. Un troisième menace de quitter la communauté parce que son point de vue concernant sa culture n'est pas respecté. Que d'exigences ! Où se trouve l'objectif assigné par Christ à son Église ? Est-ce de cette manière-là alors que nous formons un corps ? Chers amis, souvenons-nous toujours que le Seigneur a donné sa vie pour l'Église afin qu'elle soit un corps, animé par un seul esprit, le Saint-Esprit. Cette diversité est une fois encore manifeste dans la déclaration en 1 Timothée chapitre 2, verset 4 au sujet du Seigneur qui, je cite, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Fin de citation. Cette parole s'adresse à toute personne vivante à Corinthe, sans distinction aucune. Juif, grec, esclave, homme libre. Et cela se vit dans l'Église de Christ. Voilà ce qui devrait être notre combat. Le corps cesse de porter le nom de corps s'il est un organe. Un organe qui grossit au point de prendre plus de place qu'un corps. Un organe qui grossit ainsi, de manière indéfinie, est une anomalie. Et la science qualifie ce genre d'anomalie. Vous savez, quand on parle d'un cancer, en réalité, c'est un développement anarchique d'un organe. Il a cette taille, au bout d'un certain temps, il double, il triple de volume. Et vous savez ce que fait le cancer, n'est-ce pas ? Il tue. Le corps n'est donc pas un organe qui doit grossir. Le corps n'est pas un organe qui doit grossir, le corps doit être un ensemble d'organes dans lequel chacun trouve sa place. Imaginez-vous dans votre corps que l'estomac décide de ne plus laisser passer les aliments. Qu'est-ce qui va se passer pour le cerveau? Le cerveau va en souffrir. Et pourtant, lorsqu'on prend un aliment, lorsque la main saisit un aliment, qu'elle le porte à la bouche, pour que cet aliment arrive, ces nutriments arrivent au cerveau, il y a tant et tant d'étapes. Le cerveau ne peut pas sortir du crâne pour aller chercher un fruit et le manger. Il a besoin que la main le prenne, le porte à la bouche, que les dents le mastiquent, passe par l'œsophage, arrive à l'estomac, passe dans l'intestin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces images invitent à l'humilité, à beaucoup d'humilité dans le vécu de l'Église. C'est Dieu qui donne l'un et l'autre dans une fonction spécifique. Nous sommes invités à reconnaître le don qui est celui de l'un et de l'autre, du frère et de la sœur. Et surtout, œuvrer là où nous sommes pour faciliter non seulement l'éclosion de ce don, mais son expression pour l'édification de l'Église. John MacArthur, dans son commentaire, écrit ceci: « L'Église de Corinthe, comme nombre d'Églises aujourd'hui, est divisée là où elle devrait être unie et essaye d'être uniforme là où elle devrait être diverse. La division et l'uniformité ne sont pas la volonté de Dieu. L'Église ne doit pas être uniforme. L'Église doit vivre de la diversité que Dieu lui donne. » Vous savez, il serait difficile pour nous de tenir un culte s'il n'y avait pas des volontaires qui venaient pour faire de la propreté dans cette salle. Est-ce que vous les connaissez? J'en doute. Je doute fort que beaucoup pourraient citer qui fait ce travail dans la discrétion et dans peut-être l'indifférence de certains. Et pourtant, nous en profitons tous. Nous sommes heureux d'être assis sur des bancs propres parce que ces mains discrètes viennent faire ce travail dans le secret. Comment est-ce que toi, avec le don que tu as reçu, tu participes au bien de tous, au bien des autres, dans l'Église? Chaque organe a sa justification dans le corps. L'apôtre encourage à nous habiller des vêtements de l'humilité. Ceux que l'on peut mépriser à cause des tâches qu'ils accomplissent dans la communauté peuvent être finalement s'avérer ceux sans lesquels nous ferions peu de choses, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 déclare: « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et ça me rappelle une conversation que j'ai eue une fois avec un médecin où je travaillais à l'époque, et qui m'expliquait comment certaines personnes qu'il recevait à son bureau étaient idiotes. Et je me suis senti obligé de lui faire remarquer qu'il n'avait passé aucun concours pour être là où il était. Tout ce que nous avons, que ce soit un don, que ce soit un talent, est une grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Il n'y a pas nécessité à faire le fier. Il y a besoin à mettre cela au service des autres. L'apôtre Paul nous révèle cette notion d'un corps organisé par le Seigneur. Rien n'est fait au hasard. Le Seigneur est conscient que certains organes sont moins bien lotis que d'autres, et il les honore de manière particulière. Alors, quelle est notre réaction lorsque nous voyons un de nous qui reçoit une récompense ou un honneur particulier? Est-ce que cela nous réjouit? Est-ce que cela nous attriste? Est-ce que cela nous rend jaloux? Quel est notre vécu de voir les autres heureux dans l'Église? L'invitation de l'apôtre Paul, c'est que nous puissions nous investir dans la vie de ceux que le Seigneur nous donne comme frères et sœurs. La main s'investit pour trouver à manger et porter au corps. Le cerveau oriente la main et la protège en lui faisant sentir ou ressentir des choses. C'est peut-être dangereux de mettre ta main à tel endroit. Ce n'est pas la main qui dit ça, c'est le cerveau qui lui dit « attention ». Une vie d'interdépendance. Notre corps même nous enseigne comment nous devons vivre dans l'Église, les uns avec les autres. La société profondément égoïste dans laquelle nous baignons nous pousse même le dimanche à vivre ces quelques heures dans une autonomie affligeante, les uns par rapport aux autres. Certains vous diront, au loin je me trouve des personnes de l'Église, au mieux je me sens. Ah ben, il y a le dicton populaire qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est ce que nous voyons vivre parfois en notre sein, n'est-ce pas? Vivons cachés. Que faisons-nous de cette autonomie, de cette dépendance, pardon, à laquelle nous sommes appelés les uns par rapport aux autres? Certains peuvent avoir du mépris en pensant que tel est tellement dépendant. Ou peut-être tellement d'orgueil en disant « je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin d'eux. Je viens parce que ouais, ça fait style. » Ou je viens peut-être pointer, c'est ma BA de la semaine, mais je n'ai pas besoin d'eux. Et pourtant, nous avons besoin de, si vous avez tant de connaissances, ben, venez les donner à ceux qui en ont moins. Si vous avez tant d'amour, mais donnez-le alors à ceux qui en ont besoin. Partagez, donnez ce que vous avez. Ce serait plus intéressant. Que dit la Bible? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mettons cela en pratique. Alors parfois, certains attendent des anciens qui fassent telle ou telle chose. Mais les anciens veulent bien faire des choses, mais vous, vous êtes un organe dans ce corps. Et que faites-vous alors de ce que vous, vous avez reçu? Est-ce que nous le voyons alors vivre ensemble pour tout le monde? Et peut-être que ce don que Dieu vous a donné, si vous le mettiez au service des autres, ça changerait beaucoup de choses dans notre vie ensemble. Juste une question pour nous titiller. Est-ce qu'il nous arrive de prendre 5 minutes dans notre semaine pour passer un coup de fil à un frère et une sœur? Est-ce que nous avons 5 numéros de téléphone de personnes de l'Église que nous connaissons, auxquels nous pensons en disant « je vais appeler tel, je vais lui consacrer 2 minutes de mon temps dans la semaine ». Peut-être que si nous vivions ça, l'Église serait un lieu où nous aurions envie d'être toujours ensemble, de partager, d'échanger, de discuter. Nous aurions alors peut-être moins d'alibi de ne pas venir en semaine, parce qu'il y a des activités aussi éco-royales. Nous trouverions le temps et les moyens, parce que je donne ce que le Seigneur m'a donné et je veux le donner aux autres. Pour sa gloire. Il existe 2 écueils dont il faut prendre conscience dans la vie chrétienne. Celui qui consiste à dire « j'ai pas de don, j'ai aucun don à faire valoir ». Ou celui qui consiste à dire « j'ai assez, j'ai pas besoin ». Le christianisme solitaire est anti-biblique. L'Église est le corps de Christ. Chaque membre a reçu au minimum un don pour le bien des autres, pour glorifier le Seigneur, se tenir à distance des autres dans la communauté et contre l'enseignement de la Bible. Certains disent, mais moi je vais y aller, là j'ai rien à faire. C'est les autres qui apportent la parole. Oui, mais tu aurais peut-être beaucoup de choses à apprendre des autres. Ou peut-être ceux qui apportent toujours disent, mais moi je ne vais pas aller m'asseoir. Ah, peut-être ce serait intéressant d'écouter aussi les autres. Le Seigneur veut construire son Église avec les dons qu'il nous a donnés à chacun. Et pour cela, il pourvoit parfaitement. Pour conclure ce chapitre, nous assistons comme à une boucle qui se referme. Au verset 12, nous avons commenté la notion du corps composé de plusieurs organes. Et Paul insiste d'ailleurs pour dire que ces organes sont nombreux. Au verset 27, il se veut plus précis. Vous êtes le corps de Christ. Est-ce qu'on doit comprendre par cela que toute personne qui entre ici est du corps de Christ? Est-ce qu'il suffit de venir, de s'asseoir et de dire « Oui, je suis là, je fais partie du corps de Christ ». De tout ce que nous avons dit tout à l'heure, nous répondons assez simplement, assez facilement « Non ». Le texte que nous avons lu commence par la notion du baptême dans l'esprit. C'est un peu comme quand on fait les baptêmes d'eau, n'est-ce pas? On plonge la personne dans l'eau. En fait, ici, l'apôtre Paul dit « Vous êtes baptisés dans l'esprit ». C'est-à-dire qu'au lieu de l'eau, c'est l'Esprit Saint dans lequel ceux qui sont à Christ sont trempés. Il y a d'autres traductions qui disent « Vous êtes baptisés par le Saint-Esprit ». Et là, c'est plutôt le Saint-Esprit qui est l'agent qui agit. L'Église est née à la Pentecôte. Nous avons fêté il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est donné. Et nous entrons dans cette bénédiction le jour où nous recevons de manière personnelle le Saint-Esprit. Précisons que ce n'est pas le jour où nous passons par les eaux du baptême que nous recevons le Saint-Esprit, hein. En général, c'est avant. Et à ce moment, les anciens prennent le temps de discuter avec vous pour voir comment cela s'est passé. Et après, vous passez par les eaux du baptême. Et donc, nous devenons membres de l'Église, le jour où l'Esprit Saint nous est donné. Disons aussi que le baptême dans l'Esprit ne fait pas de nous des personnes parfaites. À Corinthe, tous ont été baptisés dans l'Esprit. Et pourtant, l'apôtre Paul dénonce des comportements profondément charnels. La vie d'un chrétien n'est pas toujours une ligne droite. Elle connaît des moments de crise. Et il y a des moments où le chrétien se trouve pleinement investi, pleinement habité de l'Esprit de Dieu. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit au sujet de l'Église qu'elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Être rempli de l'Esprit, c'est être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Par sa présence en l'humain, le Saint-Esprit agit en fait et en fait de nous une nouvelle créature. Le Saint-Esprit nous donne d'être obéissants. Le Saint-Esprit nous donne de marcher selon la volonté de Dieu. Être membre du corps de Christ, c'est laisser transparaître les dons qui sont ceux de l'Éternel. Et Paul affirme que les chrétiens sont abreuvés à un seul esprit. Il signifie par là que chaque chrétien a reçu dans son corps. Que dit-il? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Et pourtant, les Corinthiens dans cette église, on trouve des gens habités aussi, par, en tout cas animés, des attitudes profondément charnelles. Dans l'Église, Christ a accordé des dons divers, au-delà de l'humilité qui devrait coller à l'exercice de ces dons. Ce qui est essentiel est le vécu de l'Église comme une entité, comme un corps. Dans cette Église qui vit comme une entité, comme un corps, les membres prennent soin les uns des autres. Ils interagissent dans la dépendance les uns aux autres, sans jalousie, sans ressentiment, sans sentiment d'infériorité. Certains peuvent parfois se sentir « j'ai rien à dire ici ». Non, vous êtes membre du corps de Christ. Être membre du corps de Christ souligne l'attestation du Seigneur et une attestation des personnes qui font déjà partie de la communauté. Lorsque l'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 5, verset 11, « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. » L'apôtre Paul met deux identités, deux authenticités d'identité, une par le Seigneur et l'autre par les frères et sœurs de l'Église. Paul agit de manière pure dans son ministère et il en est conscient. Et il interpelle ses frères de Corinthe en disant « J'espère que vous nous connaissez, parce que nous sommes censés être en communion les uns avec les autres par le lien de l'Esprit. » Est-ce que nous nous connaissons dans l'Église? Est-ce que nous sommes dans cette relation spirituelle les uns vis-à-vis des autres? Et puis l'apôtre Paul vient à en citer les dons qui sont faits à l'Église. Il parle des apôtres. Les apôtres sont ceux qui ont clairement accompagné le Christ, qui l'ont vu ressusciter. Et parmi les apôtres, on a ajouté l'apôtre Paul. Barnabas aussi est considéré comme apôtre. Jacques, le frère de Jésus, est considéré comme apôtre. Silas et Timothée sont aussi considérés comme apôtres. Si vous voulez des références, je vous les donnerai. Les apôtres sont donc ceux qui, par leurs écrits et leurs enseignements, ont constitué la fondation et la doctrine de l'Église. Et elle concerne la personne et l'œuvre de Christ. Et puis, les questions des prophètes, les prophètes qui parlaient de la part du Seigneur lorsque la parole n'était pas encore écrite. Il y a les docteurs qui sont des exégètes, qui sont capables d'expliquer la parole de Dieu et d'en faire profiter aux autres. Et puis, il y a les dons des miracles qui étaient exercés à Corinthe. Il y a le don de guérison, il y a le don de parler en langue, ainsi de suite. Par rapport au don de l'Esprit, vous savez que les débats sont encore peut-être vifs dans certains milieux chrétiens. N'allons pas entrer dans ces débats. Ce que je voudrais que nous puissions garder, c'est que les dons doivent servir à l'édification de l'Église. À Corinthe, il y avait beaucoup de contrefaçons des dons de Dieu. Et c'est ce qui a créé des divisions. La parole de Dieu nous invite à l'unité et à l'exercice des dons les uns vis-à-vis des autres dans le but de nous faire grandir. Pas dans le but de nous séparer, mais dans le but de nous faire grandir. Gardons donc solidement le lien de l'Esprit et l'unité de l'Église.